L'histoire n'est pas une nostalgie, mais c'est un tremplin nécessaire pour l'avenir.
Marie-Thérèse d'Autriche, le pouvoir au féminin.
Marie-Thérèse a sauvé au XVIIIe siècle la monarchie autrichienne de la dislocation imminente. Elle a maintenu l'équilibre des forces en Europe orientale entre les grandes puissances. Elle a commencé dans ses états les réformes qui devaient permettre à l'Autriche de conserver un rôle européen. Elle fut dans toute la force du terme un homme d'État.
Pourtant, au départ, c'était un peu mission impossible. Arrivée au pouvoir en 1740, pour succéder à un père qu'il n'y avait pas préparé, elle était guettée à l'extérieur par beaucoup d'ennemis, et à l'intérieur, bien mal soutenue par des ministres passablement vermoulus, et un époux qui était le prince de la Garfe. Elle commença par susciter la pitié, et avec le temps, elle força l'admiration. Elle exerça le pouvoir avec la même détermination qu'un homme, mais en l'habillant d'un charme très particulier. Elle était la quintessence de la meilleure éducation. Au long d'un règne de 40 ans, elle prouva que les femmes peuvent faire ce que font les hommes. Mais il n'y avait qu'elle qui put offrir à la famille des Habsbourg, hantée par l'angoisse de la filiation, 16 enfants, tous destinés en principe à amasser un trésor pour l'avenir. C'est ainsi qu'elle a marié au futur Louis XVI, la 15e d'entre ses enfants, Marie-Antoinette. Chacun de ses enfants constituant aussi une personne particulière dont elle prenait grand soin. Elle ne se tenait jamais éloignée d'eux, leur organisant de petites fêtes, des rencontres en tête à tête. Elle avait des raisons de se faire portraiturer en femme aimante, entourée de son mari et de sa famille, avec parfois un berceau au beau milieu de la toile. Ainsi, peu à peu, l'analogie s'est faite entre ses enfants et ses sujets. C'était la première et commune mère, le tout dans une atmosphère de moralité pointilleuse qui n'en fait certes pas notre contemporaine, mais elle n'en demeure pas moins une pionnière.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Elisabeth Badinter, bonjour.
Bonjour.
Un livre chez Flammarion. On se souvient de votre premier livre en 1980, qui était le premier d'une longue série largement consacrée au XVIIIe siècle. Et c'était un livre sur la construction de l'amour maternel, qui ne vient pas comme ça dès l'entrée dans l'histoire. Et 400 000 mauvaises mères avaient acheté ce livre. Et enfin un livre sur une bonne mère.
J'ai pas dit que c'était une bonne mère, Marie-Thérèse. J'ai dit c'est une vraie mère. À mes yeux, être une bonne mère, c'est un petit miracle.
Ah oui, donc vous n'êtes pas capable.
Ah, peut-être pas, sûrement pas d'ailleurs.
Parce que vous dites, moi, je ne donne pas de conseils aux autres, j'ai déjà assez de difficultés à régler mes difficultés personnelles.
C'est pas forcément des difficultés, mais j'aurais du mal effectivement à régenter la vie des autres.
Alors, c'est une Habsbourg, on va voir qu'à 23 ans, elle accompagne la dépouille de son père, Charles VI. Il est mort, il mangeait trop.
Alors, il est mort d'une indigestion, effectivement, de champignons. Et dans toutes les dépêches des ambassadeurs depuis 20 ans, on s'amusait, tant bien que mal, à compter les indigestions de Charles VI, qui mangeait comme un ogre.
À la crypte des Capucins, sa dépouille est menée. Alors, on connaît le cérémonial, qui est ici reproduit encore en 2011, il y a 5 ans, au moment du décès d'Otto de Habsbourg, un introducteur déplie toute la titulature du défunt.
Otto von Österreich, einst Kronprinz von Österreich-Ungarn, königlicher Prinz von Ungarn und Böhmen, von Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien.
Voilà, la Toscane et Cracovie, duc de Lorraine, l'époux de Marie-Thérèse dont on parlera était duc de Lorraine, la Silésie qui va être très importante pour Marie-Thérèse, Modène et Parme en Italie, etc., etc. L'entrée est refusée aux défunts qui portent tant de couronnes. Du fond du sanctuaire monte une voix, je ne te connais pas. Et plusieurs fois, le dialogue va se reproduire. Et le mort, à chaque fois, doit se dépouiller d'un certain nombre de ses titres. Il espère comme ça pouvoir entrer. Et cette entrée ne lui sera permise que lorsqu'il leur a dit, revenu enfin à l'humilité, « Je suis un simple mortel. »
Otto, ein sterblicher, sündiger Mensch.
So komme er herein.
C'est formidable comme cérémonial, Elisabeth Badinter. Charles VI, le goinfre dont vous nous parliez, sur son tombeau, on voit un objet sculpté assez modeste, mais c'est reproduit en garde postale à la crypte des Capucins, une tête de mort surmontée de la couronne. Il avait d'ailleurs des raisons d'être modeste, hein, parce qu'il ne s'était pas très bien occupé de sa fille, n'avait pas préparé sa fille au pouvoir.
Non, il avait d'ailleurs très peu de charisme lui-même, il avait mené très mal des guerres, il travaillait quasiment pas, faut bien le dire. Il a même réussi à signer un traité très important avec l'Angleterre sans lire tout le traité. C'était un homme sûrement par ailleurs avec certaines qualités, un grand amateur d'art, etc. Mais il a toujours refusé, au dire de Marie-Thérèse, de la former au gouvernement, de lui enseigner les choses. Alors,
vous dites beaucoup que le père, c'est important. On dit toujours des choses sur soi dans un livre d'histoire. Évidemment, vous avez eu un père radioactif. Alors, Marcel Bleustein-Blanchet, évidemment.
Je ne crois pas qu'il y ait de parallèle à faire entre Marie-Thérèse et moi. Mais enfin, elle n'a pas eu, en tous les cas, la chance que j'ai eue. Et son père a refusé, consciemment ou pas, de la former pour une raison simple, c'est qu'il a espéré jusqu'à la veille, toute veille de sa mort, qui pourrait se remarier avec une jeune femme, une jeune princesse qui lui ferait enfin un fils.
La pragmatique sanction qu'il avait décidée, en principe, ouvrait quand même à une fille, en l'occurrence Marie-Thérèse, la possibilité d'accéder au trône. Mais quand il y arrive, quand elle y arrive en 1740, l'électeur de Bavière, qui s'estime légitime, décide de lutter contre elle. La France de Louis XV a plutôt tendance à soutenir l'électeur. Frédéric II de Prusse, qui est aux aguets, va occuper la Silésie. De grenier à blé de l'Empire, au motif que la Silésie, c'est à l'est de ses frontières. La Silésie est contiguë à la Prusse. Elle est fort démunie, d'autant que l'Angleterre ne fournit pas d'argent. Et c'est là, 1741, Annus Horribilis, que vous décrivez bien, qu'elle se révèle comme un roi.
Alors oui, parce que vraiment, elle a, en 41, à peu près tout ce qui compte en Europe contre elle. La France l'a trahi, moi je serais plus radical encore, alors qu'elle avait signé la pragmatique sanction. Elle est la protégée de la Bavière, donc vous venez de le dire, l'héritier veut prendre la place d'empereur. Les Saxons sont contre elle et au fond tout le monde se réunit, d'ailleurs ça s'est fait par leurs représentants mutuels, se réunit pour s'arracher les dépouilles. Et non. Ça, je pense, si vous me permettez, c'est que c'est quand même l'image d'une faible femme sans expérience, sans armée, sans argent. On se dit on peut y aller.
Prague est perdue, Vienne est menacée, n'a plus de vivres. Elle se réfugie en Hongrie.
Oui, et elle est dos au mur, cette femme. Et elle se réfugie en Hongrie avec son fils, d'ailleurs, parce que Vienne est vraiment au bord d'être envahie par les troupes bavaroises. Et au fond, elle est seule. Elle est absolument seule. Je dirais pas contre tous, mais en tous les cas, autour d'elle et son mari et ses ministres disent « Écoutez, maintenant, il faut négocier avec Frédéric. » Et elle refuse. Donc, elle va faire deux démarches très importantes dans sa vie. La première, avant d'être tout à fait dos au mur, elle va se faire couronner roi de Hongrie.
Alors, expliquez ça, parce que c'est important, les cérémoniales pour les Habsbourg.
C'est très important.
On la met sur un cheval, on lui donne une épée.
Alors, oui, on fait tout ça. Mais il faut aussi voir la chose très intéressante, c'est que juste avant ce cérémonial, elle est arrivée comme une femme très élégante, avec une robe magnifique, très féminine, pour aller à l'église se faire couronner. Et puis, tout de suite après, il faut prendre une toute autre allure. Elle doit se plier au rituel très très viril et d'une certaine façon guerrier, monter sur un cheval, à califourchon comme un homme, et ensuite tenir une épée très lourde, qui est énorme et très lourde, et monter au galop une sorte de petite montagne, une petite colline, qui la met tout au-dessus des maisons, etc., où elle, avec son épée, elle doit montrer les quatre cardinaux pour dire... Les quatre points cardinaux, oui, bien sûr, oui, pour montrer qu'elle allait protéger l'ensemble du pays. Et elle réussit ça merveilleusement.
Et réussit à rétablir la situation militaire grâce à un vieux maréchal, Kevin Blair, qu'elle appelle à ses côtés. Alors, on a le corps du souverain qui est appelé à devenir des eaux, la crypte. On a le corps du roi guerrier. Et puis, il y a le corps de la femme, épouse et mère. Beaucoup plus tard, je disais qu'elle avait eu 16 enfants, elle écrit à la 15e de ses enfants. Les fameuses lettres à Marie-Antoinette. Il n'y a que ça que les Français connaissent de Marie-Thérèse d'Autriche. Ça passe toujours par Marie-Antoinette, hein, la connaissance du 18e siècle, semble-t-il, en France. Restitution dans le film de Coppola.
Très chère Antoinette, à l'évidence, le cœur de vos difficultés dans votre nouveau foyer et votre incapacité à inspirer une passion sensuelle à votre époux. Il n'y a nulle raison pour qu'une jeune femme parée de tous les charmes qui sont les vôtres se trouve dans une telle situation. Rappelez-vous, vous représentez l'avenir. Et votre position ne sera pas assurée tant que l'acte physique ne sera pas accompli. Très chère Antoinette, c'est une grande joie pour moi de vous apprendre combien vos frères et sœurs sont heureux dans leur mariage. Marie-Caroline est enceinte et attend son premier enfant pour juin. Et Ferdinand est enchanté de Béatrice, qu'il a épousée sitôt qu'il l'a vue. Toutes ces nouvelles, qui devraient m'emplir de contentement, sont gâtées par le souci que je me fais de votre dangereuse situation. Tout dépend de l'épouse, de sa bonne volonté et de sa douceur. Je ne saurais vous répéter assez que vous devez recourir au charme et à la patience, jamais à la mauvaise humeur, pour remédier à cette situation malheureuse. Rappelez-vous que votre position ne sera jamais assurée tant que vous n'aurez pas produit d'héritier.
Première leçon de l'expérience de Marie. Thérèse, je ne sais pas ce que Marie-Antoinette était capable d'en tirer. Il faut être une épouse aimante, déployer les charmes, la fidélité.
Oui, toutes ces valeurs-là, elle les a communiquées à toutes ses filles. Mais dans le cas de Marie-Antoinette précisément, elle ne se doutait pas que la pauvre Marie-Antoinette pouvait déployer tous les charmes possibles. Le malheureux Louis XVI ne pouvait y répondre. Donc,
tandis que le mari de Marie-Thérèse...
Alors que le mari de Marie-Thérèse était apparemment un libertin, on pourrait presque dire, et qu'il avait certainement des capacités sexuelles remarquables.
Mais qu'elle appréciait.
Qu'elle appréciait, puisque elle en était folle amoureuse depuis déjà à l'âge de 5 ans, quand le mariage a eu lieu. Le mariage a été consommé la nuit même, et ils n'ont plus jamais cessé de coucher dans le même lit. Ce qui était vraiment exceptionnel à l'époque.
Elle n'a eu de cesse d'ailleurs de lui trouver un rôle, parce qu'il n'était pas tout à fait à la hauteur au gouvernement de ses actes au lit, et elle a fini par le faire élire empereur. Et c'était un titre qui était une survivance. Elle était reine, elle, de plusieurs... couronne, mais elle était impératrice en tant que femme de l'empereur.
Consort, on pourrait dire. Ouais.
Et deuxième leçon de cette correspondance avec Marie-Antoinette, la fécondité. Il faut avoir des enfants, mon enfant.
Oui, alors il y a deux raisons pour lesquelles la fécondité est un thème majeur à l'époque. Première raison, c'est que dans la maison des Habsbourg, ça faisait à près de 50 ans quand elle a pris le pouvoir, ça faisait près de 50 ans qu'il n'y avait pas eu un héritier mâle dans la famille des Habsbourg. Et c'était obsessionnel, puisque l'image qu'une femme pouvait être la souveraine était toujours une image dépréciée, presque négative. Une femme souveraine, c'est un moindre mâle, mais c'est sûrement pas un bien. Et la deuxième raison pour laquelle elle insiste beaucoup, c'est que tant qu'une femme à l'époque, tant qu'une souveraine, consort, n'avait pas eu de fils, elle n'avait pas le droit à la parole. Aussitôt qu'on avait un fils, alors là, elle avait, en tous les cas, elle prenait une certaine autorité. Et le plus beau de tout, c'est que si elle n'avait que des filles, si la souveraine n'avait que des filles, eh bien on la disait stérile.
Première image, l'Anus Horribilis 1741, elle est nue, sur les gravures, là on la voit dépouillée, quasi violée. Et puis ensuite, elle construit une image, vous racontez très bien comment elle se fait faire une série de portraits, en souveraine, entourée du mari et des enfants, commune et première mère. Une image très différente de celle des rois de France, par exemple.
Alors, oui, c'est vrai, c'est sans précédent. Et je pense qu'elle a, avec beaucoup d'habileté, utilisé ce qu'on pensait être la faiblesse par excellence des femmes, c'est-à-dire la maternité, la faiblesse physique. Elle en a fait une force. Et elle l'a fait avec beaucoup d'habileté parce que elle a utilisé des moyens de communication quasiment modernes. Quand elle se fait peindre à peu près tous les 3-4 ans par le même peintre de la cour, dans la même situation, avec toujours un peu plus d'enfants dans le tableau, il y en a 4 de ces tableaux. Et que ces représentations sont reprises partout, aux 4 coins de l'Empire, dans l'inconscient collectif, elle apparaît comme la bonne mère. Et de la bonne mère, elle peut, si vous voulez, peu à peu inscrire la bonne souveraine. Regardez, je suis une bonne mère, je m'occupe de mes enfants et le peuple, c'est comme mes enfants et je les traiterai comme tels.
Alors attention, vous dites bien, Elisabeth Badinter, dans votre livre, dont je rappelle qu'il est publié chez Flammarion, qu'il ne faut pas l'imaginer comme un personnage contemporain, en même temps qu'elle excelle au lit avec son époux, le duc de Lorraine, futur empereur, elle instaure une commission de la chasteté présidée par son confesseur, en même temps qu'elle va à l'opéra, qu'elle en compose elle-même. Elle dit qu'attention, dans le milieu des arts et de la musique, il y a danger. Voici un emprunt au roman de George Sand. Une cantatrice, Consuelo, venue d'Espagne, chante à Vienne. Elle a la réputation d'entretenir une liaison avec un grand musicien.
Son Altesse impériale, Marie-Thérèse d'Autriche.
Mein Kind, mon enfant, je fais grand cas de ton talent. Et je ne mets pas en doute tes bonnes études et l'intelligence que tu as de ton métier. Mais on doit t'avoir dit qu'à mes yeux, le talent n'est rien sans la bonne conduite et que je fais plus de cas d'un cœur pur et pieux que d'un grand génie. Or, je sais, ma chère petite, que vous avez une conduite assez légère et que n'étant pas mariée, vous vivez ici dans une étrange intimité avec un jeune homme de votre profession dont je ne me rappelle pas le nom en ce moment.
Son nom est Joseph Haydn, Majesté.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Nous sommes toujours en compagnie d'Elisabeth Badinter et nous sommes au midi du règne de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche à laquelle elle consacre un livre, la symphonie numéro 7 de Haydn, le midi avec l'orchestre Haydn, austro-hongrois, dirigé par Adam Fischer. Elle n'a pas récupéré la Silésie à la suite de la première guerre qu'elle a dû mener, la guerre de succession d'Autriche. Elle attend de la récupérer. Elle veut sa revanche. Elle réforme ses états et travaille.
Elle peut travailler 15 heures par jour, contrairement à ses ancêtres.
Et la guette toujours l'ombre portée, le danger du roi de Prusse, Frédéric II. C'est l'époque à laquelle se constitue l'hostilité entre Vienne et Berlin, la Prusse montante.
Et la Prusse montante et l'Autriche descendante. Donc oui, le plus fort de tout, c'est que Marie-Thérèse, en venant au pouvoir, était convaincue de l'amitié de Frédéric pour elle. Il lui avait envoyé des lettres dithyrambiques pour fêter son arrivée au pouvoir, lui disant qu'il est son ami, qu'il ferait tout ce qu'il peut pour l'aider et pour la protéger. Et en même temps qu'il lui écrit ses lettres, il se prépare à rentrer dans les états de Marie-Thérèse, ce qu'il fait quasiment un peu plus d'un mois après le fait quand elle arrive au pouvoir.
Sans déclaration de guerre.
Sans déclaration de guerre, sans rien, ses armées fonce sur la Silésie, qui est le grenier de l'Empire autrichien, et l'envahit. Et alors le plus beau de tout, c'est que comme tout prenait un temps infini, les lettres, les mails, les dépêches, elle a continué à lui écrire une lettre de tendresse et d'amitié, alors que déjà les troupes étaient rentrées dans ses états.
Il faut se méfier de ce que dit Frédéric II. Voilà un exemple tiré de son amitié avec Voltaire, que vous connaissez bien, vous, la biographe de Madame du Châtelet. Le roi et Voltaire sont en train de se lire Britannicus de Racine, où apparaît un personnage positif, Burrus, qui conseillait à l'époque la modération à Néron. Et Frédéric II fait semblant de croire que c'est un modèle, ce Burrus.
Ne faisons pas attendre assez.
Oh. Quoi, toujours enchaîné de ma gloire passée, j'aurai devant les yeux je ne sais quel amour que le hasard nous donne et nous ôte en un jour. Soumis à tous leurs vœux, à mes désirs contraires, suis-je leur empereur seulement pour leur plaire?
Et ne suffit-il pas, Seigneur, à vos souhaits que le bonheur public soit un de vos bienfaits? Quel plaisir de penser et de dire en vous-même, partout en ce moment, on me bénit, on m'aime, on ne voit point le peuple à mon nom s'alarmer, le ciel dans tous leurs pleurs ne m'entend point nommer, leur sombre inimitié ne fuit point mon visage.
Ah, je ne peux pas continuer, ce Racine me déchire le cœur. C'est lui, mon véritable père. C'est lui qui m'a fait comprendre ce que c'était qu'un roi.
Tu parles, si on peut se permettre cette familiarité, Pierre Assaut et Michel Aumont, dans un téléfilm de Jacques Tournier. Ben, s'il ne veut pas continuer à lire Burrus, c'est que ça ne l'intéresse pas, Burrus.
Non, c'est que Frédéric II est Janus Bifrons. À savoir, jusqu'à son arrivée au pouvoir, il est l'ami de Voltaire, se dit anti-Machiavel, puisqu'il en a écrit un livre, se dit sur les valeurs de Voltaire, et aussitôt au pouvoir, il a fait exactement le contraire. L'idée chez lui étant qu'il ne recherchait pas le bonheur du peuple, mais il recherchait l'agrandissement de la Prusse pour qu'elle joue un rôle plus fort en Europe, et l'intérêt de ce qu'il pensait être l'intérêt de son pays, c'était le bien. Donc tous les coups étaient permis si on arrivait à agrandir et à donner plus de pouvoir à la Prusse.
Alors Elisabeth Badinter, vous dites, moi je ne veux pas me présenter comme une historienne, bon on peut peut-être parler un peu en philosophe, alors il y a trois lignes quand même là, un peu fortes dans votre livre. Frédéric II, même s'il a écrit anti-Machiavel, il est du côté de Machiavel. Et Marie-Thérèse, vous allez nous expliquer pourquoi, elle est du côté de Kant. Surtout que Kant était son contemporain, mais un peu plus tard, elle ne l'a pas lu, puis elle ne lisait aucun philosophe d'ailleurs.
Non. Exactement, elle ne lisait aucun philosophe. Je pense effectivement qu'elle anticipe sur Kant, en ce sens qu'elle applique à la politique les valeurs de la morale individuelle. C'est-à-dire, on ne fait pas à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse à vous. Et d'une certaine façon, elle anticipe sur l'impératif catégorique. Elle a été une femme qui a eu pour boussole la morale chrétienne. Elle est, de ce point de vue, assez indiscutable. Et elle va tenir cette boussole, elle va s'orienter constamment avec ses valeurs de morale individuelle jusqu'au partage de la Pologne, où là...
Alors on y vient au soir du règne, puisque tout à l'heure on était au midi. L'électeur, le grand-duc de Lorraine, l'empereur, son époux, François-Étienne, meurt en 1765, et elle est en grand deuil. Et maintenant, elle va avoir un autre co-régent beaucoup plus gênant, beaucoup plus encombrant que François-Étienne, c'est son fils, Joseph, né l'anus horribilis, avec qui la cohabitation va être extrêmement difficile. C'est un anticlérical, un modernisateur, c'est un gant de fer sans une main de fer sans gant de velours.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que les idées, l'idéologie de Joseph II était très moderne, et il était très inspiré des philosophes, même si elle lui interdisait de s'arrêter chez Voltaire. Mais il interne tout ça, seulement il ne sait pas le faire. Et il ne prend pas de gants, comme vous dites, il brutalise. Il brutalise et les consciences et les êtres humains, et évidemment ça ne convient pas à sa mère.
Il mène une diplomatie parallèle, il fait des voyages, il va compter fleurette à la tsarine de Russie. Il est en France en 1777, où il rencontre Patrick Legibel. Imaginez cet entretien, le jeune Louis XVI à Versailles.
À Vienne, vous êtes fort occupé.
En principe, je règne avec ma mère, mais en réalité, je suis l'un des ministres de l'impératrice. Je ne m'occupe que des détails.
Vous êtes pourtant le maître de l'armée. Ce n'est pas là un détail. Cette armée puissante que vous avez créée nous inquiète. Nous ne voulons pas que l'Europe soit troublée par vous.
Oui, je suis un militaire dans l'âme. Quand je vois 10 soldats ensemble, le sang me monte des pieds à la tête. Mais n'ayez aucune crainte. Avec l'alliance de nos deux cours, quelle guerre peut-il y avoir en Europe ?
Modernisateur, réformateur, anticlérical, passionné par l'armée. En fait, même s'il n'est pas dans son camp, son modèle, c'est Frédéric II.
Alors, oui, c'est Frédéric II. Parce que il a une admiration sans borne pour Frédéric. Frédéric, c'est un immense militaire, c'est un stratège extraordinaire. C'est un homme qui joue à 10 coups d'avance et qui gagne, qui a fait une armée d'acier, on peut dire, une armée exceptionnelle en Prusse. Et donc, c'est lui le héros. Pour le jeune Joseph, son rêve, ça serait d'être aussi intelligent, aussi efficace et aussi guerrier, aussi bon guerrier que Frédéric. Ce qui, quand même, est une sorte de coup d'éventail contre sa mère, parce que c'est quand même l'ennemi héréditaire de sa mère. Et il n'y a pas, pourtant, ça ne l'empêche pas de rêver d'être comme lui. Et à 2 reprises, il va rencontrer Frédéric contre l'avis de sa mère.
Sa mère qui vit dans un costume noir, dans un appartement tendu de noir, allant régulièrement, on la descend avec un treuil, rendre visite au tombeau.
Il faut dire qu'elle est devenue très grosse à cause de ses 16 enfants. Hein.
Mais on finit en évoquant la crypte des Capucins, mais vous dites, alors là on vous reconnaît, Elisabeth Badinter, elle a tendance à tomber dans la bigoterie, dans la superstition. Il y a peut-être une hypothèse, l'expiation, vous savez comme Charles Quint quand il a abdiqué, l'expiation des choses pas toujours recommandables qu'elle a faites.
Écoutez, je ne sais pas si c'est expiation ou si c'est pas simplement franche bigoterie. Elle va, les années passant après la mort de son mari, elle va passer des heures et des heures par jour en pèlerinage, en procession, bien sûr dans les églises, dans sa crypte des morts. Et donc ça devient vraiment une bigote, c'est presque gênant pour les voyageurs étrangers qui la rencontrent. Et pour autant, elle ne laisse pas le pouvoir à son fils chéri, qu'elle aime beaucoup. Elle a un mot magnifique, elle a dit « je l'adore, nonobstant qu'il me tourmente ». Eh bien, malgré tout ça, elle, jusqu'au dernier souffle, elle ne laissera pas le pouvoir à son fils qui était pourtant son co-régent.
Et jusqu'au dernier souffle, elle parlera une langue parfaite qui était évidemment le
français.
Merci à vous, Elisabeth Badinter, chez Flammarion, Le pouvoir au féminin, votre livre consacré à Marie-Thérèse d'Autriche. L'émission a été préparée par Franck Olivard avec la technique Florent Layani. La réalisation, c'était Valérie Estaraille. Thank you.